Bonjour, après cette petite entrée en musique, nous allons commencer le quatrième épisode de notre série de cours sur le référencement naturel. Alors, dans les premiers cours, en fait, on a essayé non pas de décoder l'algorithme de Google dans son intégralité, mais d'en avoir une vision un petit peu holistique, un peu générale, pour comprendre sur quoi s'appuyer les critères, le système de classement de Google. Et puis on a vu en fait qu'il y avait différents éléments qui étaient relativement stables dans le temps, parmi lesquels l'analyse de la structure du site, l'analyse de la structure des pages, le code de chaque page, le contenu texte des pages, le volume et la qualité et la nature des liens qui pointaient de l'extérieur vers le site, des critères liés à la confiance et des critères liés à l'UX, à l'expérience utilisateur. Et Google, en fait, l'apprécie de façon relativement mécanique, mais il la prend de plus en plus en compte depuis 4 ou 5 années. Alors aujourd'hui, en fait, on va continuer en fait sur cette partie-là et on verra les conséquences que ça a sur les stratégies de référencement naturel. En gros, les différents chantiers pour le coup à gérer. Et puis, du coup, en fonction de qui l'on est, des moyens que l'on a, des ambitions que l'on a, en fait, le fait que c'est pas forcément en fait la méthode de référencement standard qu'il faut appliquer sur son propre site, mais plutôt quelque chose en fait qui nous permette de jouer déjà plutôt des quick wins dans un premier temps, et puis surtout de jouer sur nos forces et pas d'essayer d'aller par exemple sur des terrains techniques si la technique ça n'est pas notre force. Alors juste avant de rentrer là-dedans, moi je rappelle souvent dans mes formations. Différentes. Enfin, j'essaye de décoder et de démystifier un petit peu les choses. Alors, il y a une chose qui ne fait pas débat dans le monde du référencement, chez les professionnels du référencement qui n'ont jamais exactement la même vision, mais en revanche, quasiment tout le monde s'accorde sur le fait que la moitié du succès du référencement d'un site se joue au moment de sa conception. Souvent, on me dit « Attends, je vais te faire intervenir une fois que nous aurons déjà avancé un peu sur la réflexion autour de la refonte de notre site. » Mais non, le référenceur, il doit intervenir au moment de la réflexion sur le site, ne serait-ce que parce qu'il faut qu'il y ait suffisamment de cases pour accueillir suffisamment de contenu optimisé pour le référencement. Donc ça, c'est un élément pour le coup parmi d'autres. Et puis une fois qu'on a fait les mauvais choix techniques, pour le coup, moi ce que je dis souvent, c'est que le référenceur, il peut coller des rustines, mais pas forcément aller beaucoup plus loin. Ensuite, il faut rédiger. Donc ça n'a rien à voir avec l'intégration au moment de la conception du site du référenceur. Il faut rédiger du contenu calé sur les mots des internautes. 95% de ce que vous allez diffuser sur votre site, vous devez y intégrer les mots-clés tapés par les internautes et sur le principe d'une page, grosso modo, une expression une page égale un mot-clé. À chaque fois que vous avez une page, vous la concentrez sur un mot-clé, donc une expression de recherche de 2-3 mots. Sur les internautes, c'est super souvent quand on aime rédiger de devoir en fait au préalable déterminer quels sont les mots-clés réellement tapés par les internautes en relation avec le sujet que l'on souhaite traiter. C'est souvent après de répéter plusieurs fois le fameux mot dans le texte, mais ça rend la page beaucoup plus entre guillemets rentable et l'effort de rédaction beaucoup plus rentable. Ensuite, optimiser le code, la rapidité du site et la structure du site, créer le plus de liens possible, optimiser le taux de rebond du site. Donc ça, il faut garder en fait un œil sur cet indicateur-là, que ce soit dans Google Analytics ou dans Search Console, un outil dont on parlera plus tard qui nous permet de suivre le référencement, et suivre aussi son taux de conversion, parce que indépendamment des positions que l'on peut avoir dans Google sur les mots-clés que l'on poursuit et du trafic que cela génère, ce que l'on veut à la fois, c'est atteindre un objectif business. Alors ça peut être un maximum de pages vues sur notre site, ça peut être des ventes en ligne pour un site d'e-commerce, ça peut être des leads pour un site B2B par exemple. Et après, en revanche, pour terminer la partie sur l'algorithme de Google, il y a certains mythes. Par exemple, le mythe selon lequel, ça on le revoit revenir à chaque grosse mise à jour de Google, alors là c'est définitif, Google, il fonde son algorithme sur l'analyse de la pertinence. La pertinence, elle est toujours liée à un algorithme, à l'état d'un algorithme, à un instant T. Et le problème, c'est qu'il a, il y a des partis pris, et puis il sait en fait déterminer la pertinence en fait suivant des critères. et pas forcément la pertinence telle que nous, on la percevrait. Alors que ça fait 10 ans que tous les 2 ou 3 ans, en fait, on nous dit « Ah mais non, mais là, c'est fini, hein, il faut faire du contenu de qualité. » Qu'est-ce qu'un contenu de qualité? Est-ce que c'est un contenu rédigé par quelqu'un qui a un doctorat? Ou lorsqu'on parle par exemple de Nabila ou de vedette de la télé-réalité, c'est un contenu en fait très racoleur. Bah, ça dépend des cibles, la qualité. Et malheureusement, l'algorithme de Google, il a du mal à se mettre à la place des sites. Ensuite, je vous ai dit qu'il fallait soigner la rapidité du site. Et donc, du coup, souvent, on entend, donc ça, c'est un demi-mythe, entre guillemets, on entend, bah, il faut que mon site soit le plus rapide possible. Si jamais je ne suis pas ultra rapide, j'ai perdu. En réalité, oui et non. En réalité, Google a communiqué à plusieurs reprises et de façon assez cohérente, ce qui n'est pas toujours le cas, sur le fait que ce qu'il cherchait, c'était des sites qui ne s'affichaient pas lentement. Donc en gros, il ne faut pas s'afficher lentement, si l'on en croit Google et les tests aussi que j'ai réalisés, parce que sinon là vous serez pénalisé. Vous vous affichez ultra rapidement, ça ne sera pas en fait un gain énorme en référencement naturel. Donc du coup, il faut s'afficher rapidement et pas ultra rapidement. Google favorise la qualité, on a déjà parlé. Google voit tout, donc c'est inutile d'essayer de l'entourlouper. De toute façon, depuis la dernière mise à jour, c'est sûr, c'est plus la peine de tricher, d'aller créer des liens, de rédiger du contenu un peu en mode black hat. Bah, des black hat, il y en a, donc vous savez, ceux qui enfreignent toutes les lois de Google et puis qui s'en fichent. On annonce leur mort en fait depuis 15 ans et en réalité, leur défi à eux, c'est le jeu du chat et de la souris, c'est d'arriver à inventer des techniques que Google en fait ne décode pas pour le coup encore. Alors je ne conseille surtout pas à tout le monde de s'improviser Black Hat, mais c'est une illustration du fait que Google ne voit pas tout, loin de là. Par exemple, pour être en top 10 sur un mot-clé, si on ne fait pas des liens, si on va pas chercher des liens, que ce soit en achat ou avec d'autres techniques, ce sera très difficile d'être sur la première page, parce que très souvent, ceux qui sont sur la première page ont acheté des liens, mais des liens peut-être interdits par Google, parce que ça, c'est interdit par Google, l'achat de liens, mais des liens qui sont suffisamment discrets et pas détectés pour le coup par Google. Les gros sites sont favorisés, oui et non. Vous avez énormément de sites dans le luxe, par exemple Hermès, LVMH, qui sont gros au sens de l'audience, gros au sens de la notoriété et gros aussi au sens de l'ancienneté, de l'historique, qui ont un gros historique. Et pourtant, eux sont assez mauvais en référencement naturel. À l'inverse, par exemple, vous avez des places de marché comme Mano Mano, qui sont gros, alors qui ont un certain âge, hein, je crois que c'est une dizaine d'années, mais qui ne sont pas, et qui elles, en fait, cartonnent au référencement naturel, en fait, qui arrivent à se positionner sur des centaines de milliers de mots. Et je n'exagère pas, ce sont vraiment des centaines de milliers de mots. La différence entre les deux, c'est qu'il y en a qui sont ultra optimisés du point de vue du code, de la technique et du contenu d'autre part, pour le référencement naturel. Donc ça, c'est Mano Mano. Et puis, il y en a d'autres qui ne sont pas optimisés, qui n'ont pas fait les efforts que les vrais pros du référencement naturel en fait, ont fait. Et donc, du coup, ils ont beau être gros, donc dans le domaine du luxe, par exemple, mais dans l'automobile aussi, ou dans les sites des grandes banques, eux sont gros à certains égards, mais pas en référencement naturel. Donc, en fait, être gros, c'est quoi qu'est-ce qui nous donne un avantage quand on est gros? En fait, c'est le fait qu'on ait beaucoup de liens, qu'on soit un site qui ait un historique, pour le coup, dans Google, qui ait des liens de confiance. Et puis, si, en plus de tout cela, vous avez en fait bien fait un travail très fort d'optimisation du contenu et de la partie technique, alors là, pour le coup, là, vous avez un méga avantage et c'est super dur de vous déloger. Mais du coup, tous les gros ne sont pas avantagés. Donc, du coup, il y a de la place pour les petits. Et Google est intelligent parce que maintenant que depuis 2016, il a intégré du machine learning et du deep learning, il voit tout, il comprend tout, il est super intelligent. Bah, réalisez des requêtes un petit peu spécifiques et vous verrez en fait que très souvent, le système d'IA qui a été mis en place en fait n'arrive pas à très bien interpréter. En tout cas, il l'interprète, moi, de mon expérience, un tout petit peu moins bien que lorsqu'on réalisait des recherches justement très spécifiques il y a encore une dizaine d'années. Alors, les conséquences de tout cela, c'est que le référencement, en fait, du coup, on l'a compris, il repose sur énormément, en fait, d'éléments. Et donc, du coup, je vais les lister, en fait, ça va constituer l'objet, en fait, du cours de ce matin. Donc, il y a énormément de chantiers, de détails, en fait, à surveiller si on veut cartonner en référencement. Maintenant, avant d'énumérer la liste qui risque de vous faire peur, enfin qui risque de faire peur pour le coup débutant, puis qui risque de faire dire aux aux TPE, aux indépendants qui ont des moyens financiers et en temps limité pour soigner leur référencement, ah ben c'est pas pour moi, c'est trop compliqué. Ben non, parce qu'en fait, on peut le gâteau du référencement, donc le volume de trafic à se partager entre tous les sites commerciaux, il est relativement important, voire très très important, même à l'heure des réseaux sociaux, les gens sont massivement présents encore sur Google. Ils font les deux. Et donc du coup, en fait, si on arrive à être bon sur un certain nombre d'éléments, un certain nombre de points importants pris en compte par Google, ben en fait, on peut prendre sa part. Et puis du coup, plus on coche de cases, plus on soigne de points importants pour le référencement, plus le trafic va augmenter. Mais on peut commencer, moi c'est ce que je conseille en fait aux petits, aux débutants, déjà de bien mettre le paquet en fait sur les points sur lesquels on sent qu'on va pouvoir être fort. Alors du coup, je vais tous vous les lister, puis vous choisirez, vous verrez en fait ce sur quoi vous pouvez vous positionner dans un premier temps, et puis ultérieurement, vous essaierez d'être bon sur tout. Alors, une opération de référencement, ça commence souvent par un audit. Alors, un audit, ça peut paraître technique. Alors, il y a plein d'outils qui permettent de réaliser. En gros, lorsqu'un référenceur intervient sur le site d'un référencement d'un site existant, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va analyser déjà le trafic qui est issu du référencement naturel, les positions qu'il obtient. Donc, par exemple, il y a un outil qui s'appelle SEMrush.com qui est payant et qui permet de détecter les mots-clés sur lesquels se positionne un site. Il y a un service qui est gratuit, qui est édité par Google, qui s'appelle Search Console. On le reverra, on le détaillera dans un autre épisode, qui permet en fait de faire relativement, alors d'identifier, d'estimer le trafic issu du référencement naturel dans Google uniquement, pas de Bing, de Quant, de Yahoo, etc. Et qui permet d'avoir les positions exactes. Là où les positions de SEMrush, vues dans SEMrush, ne sont pas fausses, mais manque de précision, on va dire, pour des raisons techniques sur lesquelles on reviendra ultérieurement. Position, trafic, conversion, donc chiffre d'affaires, nombre de formulaires envoyés par le référencement naturel, donc ça c'est Google Analytics qui nous le dira. Ensuite, moi je réalise en fait, on réalise dans le cadre de l'agence, un audit aussi plus large. Tiens, bah, quels sont tes objectifs marketing? Parce qu'après, il va falloir aller chercher des mots-clés. Donc, ce serait bien qu'on comprenne vaguement tes produits, vaguement tes clients, parce que sinon, nous risquons de viser à côté. Et puis d'ailleurs, en fait, au-delà de ton contexte marketing général, tiens, quelle est l'évolution de ta stratégie commerciale générale pour l'année? Est-ce que tu vas te lancer de nouveaux produits? Est-ce que tu vas aller chercher de nouveaux clients? Est-ce que tu cherches plus à fidéliser ou plus à conquérir, etc. Et puis, ça, c'est l'expérience qui nous a obligés à intégrer ça. On sait que face à des recommandations absolues, extrêmement pointues d'un expert du référencement, en face, il y a un client qui a une capacité de mise en œuvre qui est limitée. Donc concrètement, ça veut dire que peut-être qu'on va lui demander, et à juste titre, d'optimiser la partie technique de son site. Et le problème, c'est que lui, il a sa DSI ou son agence web a très peu de bande passante, très peu de disponibilité. Donc si on mise, nous en tant que référenceurs, tout sur cette optimisation technique, bah, du coup, on va avoir un problème parce que les optimisations techniques seront peut-être mises en œuvre 2 mois, 3 mois, des fois 6 mois plus tard. Moi, j'ai eu un client qui a mis 1 an et demi pour mettre en place les recommandations basiques techniques que nous lui avions remises. Et donc du coup, bah, c'est important en fait qu'on voit si nous allons travailler pour rien, parce que nos recommandations ne seront pas suivies ou pas. Ensuite, souvent en fait, le point faible d'un site, c'est la partie contenu. Le client, il a déjà beaucoup de fiches produits, d'articles qui ont été rédigés, mais pas à la façon dont Google en fait s'attend, en fait, que d'une façon que Google valorise. Et donc pareil, souvent il y a un goulot d'étranglement. Est-ce que le client, il va pouvoir en fait rédiger, améliorer la rédaction des 100 pages principales de son site, ou des 50 pages, ou des 1000 pages, etc. Donc dans l'audit, normalement, on doit apprécier ça aussi. Est-ce qu'il y a des contraintes légales? Nous avions travaillé pour un site de Pernod Ricard, contraint très fortement du point de vue de la communication par la loi Evin de 91, déjà une vieille loi mais toujours en vigueur, qui oblige par exemple, lorsqu'on rédige une fiche produit et qu'on communique d'une façon générale autour de l'alcool, à ne jamais évoquer par exemple les plaisirs de l'alcool ou même juste la convivialité. Et donc du coup là en fait on est très contraint du point de vue de la rédaction, même par exemple des liens, de la nature des liens qu'on va pouvoir aller chercher à l'extérieur. Donc l'audit, il doit être technique, il doit être sur le contenu, il doit être marketing, et il doit aussi prévoir, en fait, analyser la capacité de réalisation de mise en œuvre du site. Donc après, bah, du coup, on analyse le code des principaux types de pages du site. On va analyser la structure du site. Tiens, est-ce qu'il y a suffisamment de liens à l'intérieur? Est-ce qu'il n'y a pas des liens qui sont codés de façon bizarre et qui vont empêcher l'indexation par Google? Est-ce qu'il y a suffisamment de contenu? Alors, suffisamment de contenu, c'est évidemment très, très relatif. Mais lorsque vous avez un site B2B, par exemple, d'un expert comptable qui... se dit, bah attends, moi je suis expert comptable spécialisé pour les startups, je suis aussi commissaire aux comptes, et puis j'interviens sur de la clôture de bilan et je maintiens votre comptabilité. Une fois qu'il a raconté ça, il a l'impression qu'il n'a plus rien à raconter, donc il a un site de 10 pages. Bah, 10 pages en référencement naturel, c'est un peu difficile. Donc là, par exemple, on va lui dire, bah, écoute, tu sais qu'il y a plein de gens qui cherchent un expert comptable à Nancy. Est-ce que tu as, si tu es présent à Nancy, est-ce que tu as une page optimisée là-dessus? Il y a pas mal de gens qui cherchent des experts comptables pour les boîtes dans le domaine, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, pour les salons de coiffure, pour les gens dans le domaine de l'éducation. Et donc du coup, à chaque fois, pour chacun des mots-clés sur lesquels, derrière lesquels se cache un client potentiel, normalement, il faut rédiger une page. Et du coup, ça amène souvent, in fine, à réorganiser le contenu du site pour pouvoir accueillir plus de pages de contenu que ce qu'avait prévu l'éditeur du site, en fait, dans un premier temps. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis, de mémoire, avril 2015, Google est passé en mode quasiment « mobile first ». Donc ça veut dire qu'il y a une analyse du référencement en général à réaliser dans l'audit et une analyse en fait de la partie spécifiquement mobile. Tiens, et les outils savent déterminer ça. Par exemple, Search Console peut nous permettre d'identifier les positions qu'on a sur un mot-clé en mobile ou en desktop. On recherche à partir d'un ordinateur ou on recherche à partir d'un smartphone. D'ailleurs, pour le mobile, la vitesse de chargement du site est très importante. Est-ce que quand on accède via un smartphone à ton site, il se charge rapidement? Et est-ce qu'il se charge moins rapidement, par exemple, que lorsqu'on y accède via un desktop? Donc voilà. Et puis évidemment, depuis 2015, Google exige que les sites s'affichent correctement sur un smartphone. Donc en gros, qu'ils soient responsive. Ensuite, on va remettre des recommandations à un client sur le contenu, sur le code, etc. Et puis on va monitorer ce qui se passe. Donc du coup, il faut prévoir en fait du temps pour monitorer les positions, le trafic, les leads générés par le référencement, la fluctuation de tout ça parce que ça n'évolue pas de façon linéaire. Alors, souvent, on dit que c'est en escalier et en fait, ce sont plutôt des courbes brisées. En fait, on monte, enfin, il ne peut rien se passer pendant quelques semaines. Ensuite, ça monte tout d'un coup, ça descend, ça remonte. On espère que ça remonte un peu plus haut, etc. Il faut avoir un petit peu de... Il faut suivre ça et mettre les choses en perspective. Et souvent, lorsque vous avez réalisé des améliorations du point de vue du référencement sur votre site, il y a des régressions, c'est-à-dire des retours en arrière. Et un développeur à qui vous allez demander d'ajouter une fonctionnalité, et puis comme lui n'est pas au courant de ces histoires de référencement, il risque de casser quelque chose que vous aviez mis en place. Du point de vue du référencement, il y a des moments qui sont charnières. Au moment, par exemple, où et donc du coup, il y a une démarche spécifique. Vous intervenez sur le référencement d'un site que vous vouliez améliorer, c'est le cas de figure le plus simple. Vous intervenez au moment de la refonte. Génial, il y a tout à gagner, puisque je vous disais qu'il n'y avait pas mieux que de demander son avis au référenceur pour que le nouveau site, la nouvelle version du site, soit bien conçue. Le problème, c'est qu'on a aussi tout à perdre. Le référencement d'un site, il repose d'abord sur le contenu qu'il y a sur le site. Si à l'occasion de la refonte, vous perdez des pages, il y a de fortes chances que vous perdiez des positions. Si jamais Google appréciait en fait une page, c'est-à-dire une URL, vous savez l'adresse HTTP exacte de la page, et que cette URL-là disparaît, pareil, pas bon pour le référencement. Donc il faut bien préparer les choses et intégrer à la fois une démarche quand on refond son site de migration des anciennes pages, des anciens contenus vers la nouvelle version du site, d'une part, et puis une intégration, une démarche plutôt enrichissement au moment de la conception pour le coup du nouveau site, donc un travail pour le coup plus positif. Je l'ai dit de plusieurs manières en fait à la fois dans cet épisode et dans les épisodes précédents. Le contenu, il n'y a rien de plus important en matière de référencement naturel. À tel point qu'il y a énormément d'entreprises qui en sont à leur 2, 3, 4e année de référencement, qui comprennent qu'à un moment donné, pour continuer à progresser, il faut créer alors ce qu'on appellerait en mauvais jargon tech une content factory, donc une structure qui est dédiée à la création du contenu. Alors la content factory, ça peut être vous si vous êtes indépendant, ça peut être un presta qui travaille à distance, ça peut être une plateforme par laquelle vous passez, sur laquelle vous commandez des articles, et ça peut être même une unité que vous créez pour le cours en interne. Alors là, si vous êtes une beaucoup plus grosse société. Et là, pour maintenir, moi je vois d'expérience, un effort dans le temps constant en matière de création de contenu pour qu'au moment, à un moment donné, on arrive à avoir un volume d'articles, de pages critiques, il faut définir un plan éditorial. Donc définir un plan de travail pour le coup à l'année. Et on sait que sur la prochaine année, on va devoir rédiger, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, 365 articles. 365 articles, c'est plus ou moins un par jour, y compris le dimanche, hein, donc c'est un peu manichéen. C'est quelque chose qui est gérable pour même une toute petite structure, à condition qu'il y ait une personne qui soit inspirée et qui aime bien rédiger. En gros, c'est une demi-heure, une heure de travail par jour. Vous êtes une petite structure, vous avez un site qui, au bout d'un an, en fait, à 300 pages, optimisé pour le référencement et avec, en revanche, du contenu aussi intéressant du point de vue du client derrière, vous verrez que vous aurez des résultats beaucoup, beaucoup plus importants que ceux qui auront investi via un prestataire 3, 4, 5, 6 000, 7 000 euros de référencement. Donc du coup, ça, c'est important d'avoir un plan éditorial en fait qui nous permet en fait d'orienter notre effort de rédaction de contenu pour le référencement naturel. Si vous voulez vraiment aller jusqu'au bout de la logique, moi je vous conseille en fait d'intégrer une demi-journée de formation, en fait d'acheter une demi-journée de formation en fait pour vraiment comprendre les différents types de contenu qui peut être intéressant de produire. En fait, on en parlera dans les épisodes suivants, mais on n'ira pas forcément en fait complètement dans tous les détails. Et puis peut-être, alors ça peut être une idée pour ceux d'entre vous en fait qui sentent qu'ils auront du mal à maintenir un effort comme ça dans le temps, qui n'est pas nul. Vous pouvez imaginer en fait investir dans du coaching. Alors moi je déteste ce mot-là, mais faire en sorte qu'il y ait quelqu'un qui vous rappelle et qui vous mette un peu la pression pour que vous alliez jusqu'au bout de la rédaction des articles. Alors ça, le contenu, c'est l'arme fatale une fois qu'on a fait les bases du référencement naturel. Donc c'est ce qui permet en fait au site de PME de prendre une très grosse part de marché en matière de référencement naturel. C'est aussi ce qui sauve, donc ça c'est l'arme fatale des gens qui cartonnent, mais c'est aussi l'arme qui sauve ceux qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout de la logique de l'optimisation technique ou du netlinking par exemple, dont je vais parler juste après. Et ça, c'est accessible a priori pour le coup à tout type de société, si tant est qu'elles prennent le temps de rédiger du contenu. Ensuite, donc du coup, il y a la partie netlinking. Donc la partie netlinking, c'est quoi? C'est lié au fait que Google apprécie les sites qui reçoivent beaucoup de liens de l'extérieur et si possible des liens de sites que lui-même apprécie beaucoup. Donc pas des petits sites qui viennent de sortir hier matin, et pas des sites avec très très peu de contenu, et pas des sites qui sont suspects, entre guillemets. Donc ça peut être des liens qui sont issus de sites partenaires, donc vos vrais partenaires commerciaux. Ça peut être des liens qui sont issus d'articles, donc d'articles qui parlent de vous dans les médias traditionnels, ou d'articles qui ont été diffusés sur des blogs avec lesquels vous êtes rentré spécifiquement en contact justement pour pouvoir récupérer des liens. Ça peut être des liens qui sont diffusés dans des annuaires qui sélectionnent des sites, qui font un travail très qualitatif. Les annuaires qui ne font pas ce travail de sélection, ils ne sont pas très cotés par Google. Des liens qui sont issus des opérations de relations presse, relations publiques que vous avez organisées. On parle de vous, puis du coup, de temps en temps, on vous link. Et puis, on peut aller aussi chercher des liens via d'autres démarches. Par exemple, on peut rédiger des articles de très haut niveau que l'on va faire connaître sur les réseaux sociaux. Et puis, avec un peu de chance, vous aurez des blogueurs, des éditeurs de sites spécialisés qui vont découvrir votre article de cette manière-là, par exemple, et qui vont le citer en référence. Donc ça, c'est du link betting, donc le fait d'être cité en référence via un lien sur les sites d'autres. Alors, il y aura d'autres techniques de netlinking dont on parlera. Ensuite, on traque en référencement les perfs. Est-ce qu'on génère plus de trafic ou moins de trafic? Est-ce que le trafic, il arrive sur les bons mots-clés? Parce qu'on peut avoir un site dont le trafic augmente et passe de 0 à 5 000, à 10 000, à 50 000, mais avec 90% de trafic inexploitable parce que ne correspond donc pas à une cible client intéressante. On va mettre en place des tableaux de bord SEO, le trafic, les positions sur les mots-clés les plus importants, la part du trafic qui arrive sur la marque, la part du trafic qui arrive sur les mots-clés qui ne contiennent pas le nom de votre société. Et c'est ça le vrai référencement, c'est là où il y a de la conquête du client. Souvent, on devra régler aussi Google Analytics pour qu'ils comprennent mieux le trafic issu du référencement naturel. Et puis souvent, alors ça, c'est pour les sites déjà un petit peu avancés, il y a aussi un travail de paramétrage de Google Tag Manager, donc un système qui permet d'harmoniser l'ensemble des systèmes de tracking d'un site. Si jamais, en fait, vous êtes un commerce local, il y a un travail de référencement local à faire qui passe essentiellement par le fait de soigner sa fiche Google My Business. Et ça, c'est un autre travail que celui que j'ai décrit ici. Et en fonction du type de site que vous avez, est-ce que c'est un site d'actu ? Tiens, il y a peut-être un travail pour essayer de se faire référencer dans Google Actualité. Vous êtes un site d'e-commerce, il faut peut-être bien soigner les images et vérifier en fait que les images de vos produits apparaissent dans Google Images, parce que du coup, c'est devenu un moteur de recherche de produits aussi, Google Images. Peut-être que vous avez de quoi, si vous êtes un auteur, par exemple, plusieurs fois publié, il y a matière à ce que vous demandiez la création d'une fiche dans Wikipédia, du coup, sur laquelle vous pourrez insérer un lien vers votre site. Et ça, c'est un lien qui rapporte de la puissance et de la confiance. Donc ça, c'est assez important. Idem, si vous êtes une société à forte notoriété, c'est possible d'imaginer ça. Et puis enfin, il y a peut-être, si vous diffusez, vous produisez du contenu vidéo, il y a peut-être un référencement vidéo, donc qui passe essentiellement via YouTube, à réaliser. Et puis on voit bien que derrière tout cela, en fait, comme on sollicite à la fois les gens qui rédigent du contenu, on sollicite les équipes marketing, on sollicite beaucoup les gens qui s'occupent de la technique du site, il y a toute une série d'actions à mener, de sensibilisation, d'éducation, puis de formation aussi, à destination des différents publics que vous allez solliciter à l'intérieur de la société. Donc on a fait un peu plus de 15 minutes, mais je pense que c'était intéressant en fait de couvrir largement le spectre des actions nécessaires qu'il est souhaitable d'intégrer dans une opération de référencement, alors qu'il est souhaitable ou possible, puisque j'avais commencé par dire, si jamais vous voulez cartonner, tous ces sujets-là doivent être abordés, mais en même temps, si jamais en fait vous êtes une petite structure, l'important c'est pas forcément de tout faire, mais d'identifier en fait les points sur lesquels vous êtes susceptible d'être fort. Donc de toute façon, il faudra toujours un minimum de contenu, mais par exemple sur la technique, vous ne pourrez pas peut-être aller jusqu'au bout des optimisations. Par exemple, pour optimiser vraiment la rapidité de chargement la vitesse de chargement d'un site qui est spécifiquement lent, si vous l'avez sur WordPress et que vous avez choisi le mauvais template, le mauvais modèle de site, donc un modèle qui se charge spécifiquement lentement, il y a des possibilités, il y a des extensions qui nous permettent d'optimiser ça, mais qui ne résolvent pas tous les problèmes. Donc du coup, là, peut-être que vous perdrez sur cet élément-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que si vous êtes, par exemple, très fort, soit sur le netlinking, soit sur le contenu, du coup, vous pouvez quand même prendre votre part du gâteau. Il y a pas mal de leviers, comme par exemple sur les réseaux sociaux, où vous pouvez vous épuiser à publier du contenu, essayer d'avoir des followers, etc. Puis le nombre de followers ne décolle pas à la hauteur de vos espérances. Vos contenus, ils sont peu vus, même si en plus les indicateurs que vous donne par exemple LinkedIn, quand il vous dit que votre publication était vue par 1000 personnes, en général, il y a peut-être 100 personnes qui ont vraiment prêté une attention. Et souvent, par exemple, sur les réseaux sociaux, qui sont des bons leviers de croissance, si on sait bien les utiliser, quand même. Souvent, sur les réseaux sociaux, en fait, on est un peu déçu. On a l'impression de faire beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Si jamais on vise juste sur un des éléments clés du référencement, soit la technique, soit le contenu, soit le netlinking, par exemple, on peut prendre, pour le coup, une part du gâteau. Évidemment, plus fort vous appuierez sur le levier contenu, netlinking, optimisation technique, plus vous prendrez de visiteurs et de contacts. Et en plus, si jamais vous arrivez à appuyer fort sur la technique, sur le contenu, sur le soft branding, et qu'en plus l'expérience utilisateur de votre site en fait est optimale, alors là, vous êtes les rois du pétrole. Mais quand on débute en référencement, il faut peut-être miser d'abord en fait ce sur quoi on est fort, plutôt que d'essayer en fait d'être moyen faible en fait sur l'ensemble des deux leviers. Voilà qui conclut cet épisode.